Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il a été, entre autres, magistrat, maire d'Évreux, député, porte-flingue du candidat Chirac avant d'en devenir son ministre de l'Intérieur. Il a présidé l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel aussi. Sans doute le minimum à faire quand on porte le nom du fondateur de la Ve République et que l'on veut essayer de se faire un prénom. Depuis qu'il est libre de tout mandat et de toute ambition politique, il a choisi de dire tout haut tout ce qu'il pense. Il a aussi coécrit un livre avec un sens abri, et en ce moment, il est même sur scène au théâtre. Alors oui, sa caricature a pu être facile, mais aujourd'hui, beaucoup se demandent qui est vraiment l'insaisissable monsieur Debré. Ce soir, c'est donc Jean-Louis Debré qui est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Jean-Louis Debré considérait quand même son père... Bon, il y avait Dieu qui était le général de Gaulle, mais son père était au moins le Christ.
Je voulais faire de la politique, je voulais m'engager. Ce qui a véritablement déclenché, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un homme qui était grand, qui fumait des Pall Malls, et que j'ai rencontré un jour, par hasard, c'était en 1967, c'était Chirac.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Et Chirac me dit, mais quand tu vois comment vois-tu l'avenir ? Eh bien, j'ai écouté, vous savez, avec tout ce que j'ai bombardé sur Balladur qui peut devenir président de la République, j'ai intérêt à prendre le maquis. Donc, où je me trouve un endroit désert dans ma campagne normande, ou alors je vais sur les terres australes. Et Chirac dit, non, j'ai un projet pour toi. Quel ? Je vais ouvrir une agence de voyage, tu vas la tenir, et moi je voyagerai pendant ce temps.
Voilà, je crois qu'on va entendre le Premier ministre.
D'un mot, parce que le Premier ministre va parler.
Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est Monsieur Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Le nouveau président de la République est donc Monsieur Jacques Chirac, élu avec 52% des voix. C'est la joie, c'est la liesse, on peut le comprendre. Avenue d'Iéna, au siège du quartier général de Monsieur Jacques Chirac. Je vous laisse écouter l'ambiance.
Madame, Monsieur, bonsoir. Au lendemain de l'intervention d'Alain Juppé, les forces de l'ordre sont donc intervenues ce matin à l'église Saint-Bernard. Environ un millier de gendarmes mobiles et de CRS qui ont forcé vers 8h moins le quart la porte de l'église Saint-Bernard pour s'emparer des sans-papiers.
Le moment était venu d'appliquer la loi avec fermeté, mais avec le souci d'humanité et de cœur que souhaite le gouvernement.
Asseyez-vous. Vous allez la fermer 5 minutes. Posez votre question.
Jean-Louis Debré, c'est d'abord un style. Un président qui ne ménage personne. Un tatillon du temps de parole.
Permettez-moi très simplement de vous remercier et vous dire très simplement aussi que cela restera l'honneur de ma vie d'avoir présidé l'Assemblée nationale. Je vous remercie.
What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.
Mon côté Giscard et Chirac, c'est... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame.
Je n'ai jamais vu... Dans la fin de sa vie, jamais entendu mon grand-père se plaindre de quoi que ce soit. Je me souviens de cette phrase qu'il nous répétait sans arrêt, ou qu'il me répétait sans arrêt, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté.
les tontons flingueurs pour vous accueillir. Bonjour et bienvenue dans Hors-Piste, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, c'est un nom et une vie dédiée à la politique de la fin des années 60 à votre départ du Conseil constitutionnel. Vous en avez quitté la présidence en 2016. Et j'ai l'impression que derrière, vous avez eu envie d'une coupure, de couper net le cordon avec la politique, de quitter la piste pour le coup. Pourquoi cette rupture ?
Parce que je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas devenir un vieux en politique. Vous savez, toute ma vie, j'ai été angoissé par ce terme de vieux. Alors j'ai commencé ma vie professionnelle comme juge d'instruction à Paris, belles affaires, etc. Mais je me dis, tu ne peux pas devenir un vieux juge, sceptique, résigné, blasé. Alors, à un moment, je me suis dit, il faut quitter. Et puis je pense que les garçons de mon âge à l'époque doivent s'engager en politique. Et donc je me suis engagé en politique. Et puis je me suis dit, quand j'étais en politique, après avoir eu à peu près toutes les fonctions, si tu ne peux pas devenir un vieux politique, blasé, résigné, sceptique...
Aigri
c'est pour éviter d'être aigri. Et donc change. Alors je me suis mis à écrire des livres de... des romans policiers, des livres d'histoire, des souvenirs. Mais je me suis dit, tu peux pas devenir non plus un vieil écrivain. Et donc, là, je me suis mis à faire du théâtre. Et donc, tous les soirs, du mercredi au samedi, on va atteindre la 100e représentation. Ouais. Ces femmes qui ont réveillé la France au Théâtre de la Gaîté. C'est un bonheur. C'est une pièce que je joue avec...
En tout cas, vous avez déjà tous les codes de la promo. Vous arrivez à placer l'info très vite. On va en parler du théâtre tout à l'heure, mais juste sur la politique. Il y a plus de sentiments entre la politique et vous? C'est une rupture amoureuse?
C'est une rupture, oui, je regarde. C'est l'histoire de mon pays. Mais je n'ai plus du tout envie d'intervenir. Et donc, je regarde parfois avec un peu de tristesse, mais c'est un autre monde. Et parfois, aujourd'hui, c'est un monde que je ne comprends pas très bien.
On va y venir, mais tout le monde ne raisonne pas ou n'a pas raisonné comme vous. Il y a tous ceux qui n'en finissent pas de s'accrocher à leur manière. Si l'on s'en tient aux anciens présidents, Giscard n'a pas su décrocher, Sarkozy non plus, François Hollande encore moins. Comment vous l'expliquez ?
Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien.
Ouais.
Je pense qu'il y a un moment où il ne faut pas s'accrocher. Il faut tourner la page. Mmh. C'est extraordinaire.
C'est pas du tout douloureux, ça.
Mais attendez, c'est douloureux si c'est pas vous qui si on tourne la page pour vous. Ce qui est fantastique dans la vie, c'est de recommencer un métier à chaque fois, de réapprendre, de repartir à zéro. Quand je me retrouve sur une scène de théâtre, c'est fantastique. D'où je viens? Et la vie, c'est ça.
Ouais.
Peut-être qu'un jour, je rentrerai à France Inter pour faire des chroniques. Mais la vie, il faut pas la subir. Il faut chercher à toujours être l'esprit ouvert, apprendre des autres, apprendre à regarder des autres. Et ben voilà. Et donc c'est pas douloureux si c'est vous qui conduisez le changement.
Mais vous qui êtes un passionné, Jean-Louis Debré, oui. On l'entend avec presque une fougue de jeunes premiers dans tout ce que vous entreprenez. Oui. Une campagne présidentielle, ça a été votre vie pendant des décennies. Là, ça vous émoustille pas en ce moment? Vous en foutez?
Je peux pas dire que je m'en fous. Je l'observe, mais ce n'est plus mon monde. Je ne les comprends plus, ces personnages. Voilà, je regarde, j'observe, et puis le moment venu, j'irai voter.
Pour qui, tiens?
Je sais pas encore.
C'est vrai?
Je vois.
C'est pas évident pour vous?
Non, mais si c'est évident, mais je veux pas mélanger aujourd'hui la politique avec ma nouvelle vie. Mmh. Et donc je suis un citoyen comme tout le monde, et comme tout le monde devrait le faire, j'irai voter.
Mmh. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview politique, justement. C'était cette semaine, mardi, chez nos confrères de BFM. Apolline de Malherbe recevait votre lointain successeur place Beauvau, Gérald Darmanin, et l'échange a été assez tendu.
Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence.
J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM.
Je vois pas le rapport.
Vous ne dites pas non plus, et
mais
ça c'est terrible.
Mais
parce que vous ne dites pas
mais
non plus.
Je vois pas le rapport.
La
je
baisse...
parle en l'occurrence.
Est-ce que vous me laissez parler,
je
madame?
Je parle en l'occurrence des
madame.
Atteintes aux personnes.
Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste.
Bon,
et c'est la difficulté.
Alors là, allez-y, essayez de démontrer.
Non, mais vous vexez pas, calmez-vous.
Ce sont vos chiffres.
Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer.
Non, mais
il y a 30% de baisse.
Oh, je vous demande pardon. Comment
ça va bien se passer, madame. Vous allez voir.
Mais
il y a 30%, il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée.
Jean-Louis Debré, que vous inspire une séquence comme celle-là? On parle même pas tant du fond que de la forme.
Une très grande tristesse. Quelle arrogance. Quelle arrogance. C'est, on a l'impression de personnages qui ne veulent pas être confrontés avec la réalité et qui sont enfermés dans leur mépris des autres, dans leur arrogance, dans leur sentiment de supériorité. Mmh. Et c'est tout ce monde que je n'aime pas.
Vous parlez de qui, là? Du ministre ou de la journaliste ou des deux?
Du ministre.
Du ministre? C'est
quand
quoi?
Quand on est ministre, d'abord on n'est pas forcé de venir à la radio pour répondre aux questions des journalistes ou à la télévision. Et si on vient, c'est qu'on veut expliquer. Et on n'a pas ce ton méprisant. Vous devriez être sur CNews. Vous faites du populisme. De quoi je me mêle? On pose des questions, répondez. Et quand vous êtes ministre, prenez de la hauteur et informez les Français et arrêter ce côté méprisant.
Les politiques et les ministres en particulier parlent trop aujourd'hui. On est dans une époque qui est trop bavarde.
C'est une époque où on est beaucoup trop bavard. C'est-à-dire que du coup, on ne comprend plus rien. C'est une époque bizarre l'instantané chasse l'instantané. Et donc, vous avez, on passe de l'un à l'autre, on saute, on donne des idées, et finalement, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus de lisibilité de la politique.
Mais la faute à qui? C'est la faute des journalistes? C'est la faute qui disent que c'est la faute des politiques? Qui disent que c'est la faute des journalistes? Qui disent que c'est la faute de l'époque? La faute à qui?
Mais je crois que c'est une faute collective. On est rentré dans un... La politique est devenue un métier du spectacle, beaucoup plus que dans le passé. Et ce spectacle, c'est pas un discours ou une idéologie, c'est un mot. Il faut dire n'importe quoi pour frapper les esprits. Et alors ça, c'est le système. Et puis on vit à une époque où c'est la fin des idéologies. Et la fin des idéologies permet l'arrivée de tout populisme. Et donc les gens ne croient plus en rien, ils croient à l'instantané. Et seule allusion politique que je pourrais faire, je me souviens de ce mot d'un président du conseil de la troisième qui s'appelait Henri Queuil. Aujourd'hui, pour beaucoup, la politique, c'est de faire taire ceux qui posent des problèmes plutôt que de régler les problèmes eux-mêmes. Et on a ce sentiment. On l'a senti.
Ça, c'était la Troisième République.
Oui, mais il a été sur la Quatrième. Il a été sur la Quatrième.
Les choses sont pas très différentes.
Non, mais quand il n'y a plus d'idéologie, quand on ne croit plus en rien, et quand on est accompagné d'un système médiatique, alors on est dans ce système qui consiste à faire taire ceux qui posent des problèmes et ne pas régler les problèmes de fond.
C'est terrible ce que vous dites. Vous êtes en train de nous dire que ça tourne à vide en ce moment.
Mais
on est dans une époque qui tourne à vide, c'est ça?
C'est dans une époque dans le monde qui tourne à vide.
Ouais.
Et où plus personne n'a de prise sur rien. La mondialisation a fait que tous les garde-fous nationaux ont disparu, que puisqu'il n'y a plus d'ambition idéologique, quelle que soit l'idéologie, alors on navigue au gré des vents politiques de l'instant.
Et le rejet, une forme de haine parfois qu'on peut ressentir contre des politiques, ça vous inquiète ça aujourd'hui dans la société?
Oui, parce que je ne vois pas de société qui peut se construire et se développer sans politique. Et donc ces haines, ça devient l'anarchie et un très grand populisme. Donc je suis très inquiet de la situation, voilà, et inquiet du sentiment qui se développe. Faut pas aller voter, ça sert à rien, ça. Attention. C'est comme ça que se démantèlent les pays.
Il y a un risque de démantèlement du pays aujourd'hui?
Vous savez,
le mot est fort quand même.
Oui, l'alliance du régionalisme, de décentralisation, de une certaine Europe, de la mondialisation sont en train d'abîmer les nations. Vous savez, je me souviens toujours des philosophes du XVIIIe siècle qui disaient toujours un pays, une nation, c'est comme un être humain. Ça naît, ça vit et ça meurt. Et donc, attention. Attention. Et plus le monde est incertain, plus il faut renforcer la cellule nationale. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à l'Europe, ça ne veut pas dire qu'on renonce à des coopérations, mais il faut se retourner vers l'humain. Alors on a le sentiment aujourd'hui quels que soient les hommes politiques de leur tendance, c'est qu'ils ont perdu cette notion d'humanité.
On va reparler de vous un peu, Jean-Louis Debré. Votre vie politique, au final, c'était une vie pour quoi, quand vous en faites le bilan ?
C'est une vie pour parce que j'aime la République et que je pense que si, quand j'étais jeune, ma génération ne s'engageait pas en politique, eh bien, la France allait aller à volo. Quelles que soient les idées des jeunes, il faut à un moment de sa vie s'engager pour son pays. Moi, j'appartiens à une famille, par le sang, qui a toujours défendu la République.
De père en fils.
De grand-père.
De grand-père, en, même.
D'arrière-grand-père. Vous savez, j'appartiens à une petite famille alsacienne, d'abord juive, qui a quitté la Bavière pour venir s'installer en Alsace. Et au moment de Napoléon, Napoléon, pour intégrer les juifs à la France, leur a demandé de prendre un nom. Un nom plutôt de résonance catholique. Et mon arrière-arrière-arrière-grand-père n'a pas voulu abandonner sa culture juive, mais il n'a pas voulu renoncer à servir le pays d'accueil. Et il a pris comme nom Devarin. Et Devarin, c'est en hébreu la racine de porter la parole. Et Devarin, Debré, c'est la racine de Devarin. Et donc, mon nom a été le premier coup d'État de la famille. Et puis après, dans ma famille, on a été fasciné par le principe de la laïcité. Et donc, je suis porteur de ce principe de la laïcité. Dans la famille, il y a des juifs, il y a des catholiques, il y a des protestants. Et la République est incarnait cette laïcité. Et après, alors, vous avez mon grand-père qui s'engage pendant la guerre de 14, et puis la résistance, et donc le fil conducteur de cette famille, comme de bien d'autres familles, c'est la République et la résistance.
Une affaire de famille, évidemment, c'est une banalité de dire ça dans la famille Debré. Vous étiez quatre frères, dont un jumeau, Bernard, qui est parti le 14 septembre 2020. Vous n'étiez pas proche. Est-ce que c'est la politique qui vous a séparé? En tout cas, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit.
C'est ce que lui disait aussi,
nous
parfois.
Nous n'avions pas, mais moi je ne l'ai jamais dit, nous n'avions pas la même conception de l'action politique. Voilà, c'est tout. Et donc,
mais est-ce que la fonction politique a éloigné les frères?
Quand on dit que t'es pas proche, j'ai quand même des souvenirs de ministre de l'Intérieur allant le soutenir dans sa circonscription. Donc, il y a des images. On ne parlait pas politique entre nous, car il n'avait pas la même conception que moi de la politique, de la fidélité en politique. Voilà. Donc
la grande fracture, c'est Balladur pour lui et Chirac pour vous.
C'est ça. C'est-à-dire qu'il a commencé avec moi à soutenir Chirac et puis après il est parti. Mais peu importe. Mais
est-ce que la politique a pris le dessus sur l'affection? Est-ce que la politique a séparé les frères?
Non. Séparé dans discussion politique, mais pas sur la discussion sur le fond.
Ouais. Vous avez des regrets aujourd'hui, une tristesse aujourd'hui qu'il n'est plus là ou pas?
J'ai la tristesse que j'ai deux frères qui sont oui, morts, et la tristesse que ces deux personnalités qui étaient très différentes,
François l'autre,
François qui était un écrivain, qui ne soient plus là. Oui, j'ai une grande tristesse que mes parents ne soient plus là, que mes grands-parents, mais c'est la vie.
Oui, mais vous esquivez un peu ma question. Je parle d'une tristesse de ne pas vous être dit les choses, vous êtes des jumeaux, enfin des faux jumeaux. Lui, il disait, si nous étions faux jumeaux, je n'ai pourtant jamais eu l'impression de me comporter en faux frère.
Mais vous savez, je ne veux pas intervenir sur ce sujet parce que je considère qu'il y a un moment où arrêtons cette radio voyeuse. Moi, ma vie familiale, ma famille, mes frères, c'est mon jardin secret, et ce n'est pas à étaler les relations entre nous.
Et peut-on avoir une vie normale et des relations normales quand on a grandi dans les appartements de Matignon, par exemple, quand votre père, Michel Debré, était ministre, premier ministre, pardon, du général de Gaulle?
Oui, mais vous savez, j'ai toujours très présent à l'esprit une phrase de mon père qui est tellement importante. Lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, et avant qu'on le sache, il m'a fait venir, il était mourant, il allait mourir quelques mois après, et dans un effort énorme, il m'a dit, tu vas retenir une chose, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Et dans toute ma carrière, j'avais inscrit sur mon bureau
cette phrase, tu seras plus longtemps ancien ministre que ministre. Et c'est tellement vrai. Donc, c'est vrai qu'on a connu, enfant, Matignon, un certain nombre de ministères. J'ai connu le ministère de l'Intérieur, c'est l'hôtel de Lassay. Parfait. Mais quand vous avez devant vous cette phrase, attention, dans quelques mois, quelques jours, quelques semaines, quelques années, tu ne seras plus rien. Ça vous remet les pendules à l'heure.
Ouais. Ces lieux de pouvoir que vous citez, Matignon, l'hôtel de Lassay, la présidence de l'Assemblée, on peut citer l'Élysée que vous avez fréquenté également assidûment, est-ce qu'ils sont encore adaptés à l'exercice du pouvoir aujourd'hui ?
Oui, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas adaptés.
Parce que peut-être, est-ce que la géographie des lieux, la lourdeur du protocole ne transforme pas obligatoirement ceux qui en sont et ceux qui sont au pouvoir en roi soleil ? Est-ce que ça ne favorise pas inexorablement les phénomènes de cour ?
Mais les phénomènes de cour ont toujours existé, quel que soit le régime politique. Alors, le protocole, c'est à vous de bien vouloir l'assouplir.
Mais il rattrape tout le monde, on a l'impression qu'il rattrape tout le monde. Tous ceux qui ont voulu changer ça ont été rattrapés.
Oui, sauf que je me souviens qu'avec Chirac, le protocole était assez allégé et plus facile. Il y a aussi, quand vous avez reçu un mandat du peuple, que vous êtes président de la République ou Premier ministre, vous devez avoir une certaine attitude. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai critiqué ce ministre de l'Intérieur qui perd ses nerfs et qui... Il perd pas ses nerfs, il est agressif, méprisant. Ben, quand vous avez une haute fonction qui a été conférée par le peuple de France, eh bien, vous devez avoir un certain protocole et une certaine attitude. Mais il ne faut pas se laisser enfermer. La grande force de Chirac, c'était d'entendre, d'écouter. Vous savez, j'ai un souvenir. Quand le dimanche, j'allais le voir à l'Élysée, quand je rentrais dans son bureau, la seule chose qu'il me disait, ne me dis pas ce qui va bien. Tous, en montrant ses collaborateurs, ses ministres, me disent ce qui va bien. Dis-moi ce qui va mal. Et le problème du pouvoir, ce n'est pas le protocole. Le problème du pouvoir est plus vous êtes haut dans la hiérarchie, c'est d'être capable d'entendre, de comprendre celles et ceux qui ne partagent pas votre analyse. Et souvent, les hommes du pouvoir que j'ai pu observer, parce que le pouvoir est très déstabilisant, ils cherchent à se rassurer. Et ils se rassurent dans les notes des collaborateurs qui disent « Mais vous avez été excellent, mais c'est remarquable, mais c'est ça qu'il faut faire. »
Tout le monde est plus ou moins sensible à la flatterie dans la vie, quoi qu'on dise.
Tout le monde, mais naturellement, c'est fantastique de recevoir des éloges. Mais il faut qu'il y ait une petite case importante dans votre esprit, et qu'il faut qu'il y ait quelques collaborateurs ou quelques amis que vous puissiez écouter en les regardant dans les yeux, et qu'ils soient capables de vous dire « Non, là, vous êtes pas, c'est pas bien. »
Et ça permet de résister à l'ivresse des sommets, l'ivresse du pouvoir.
Je pense. Et dans les expériences que j'ai eues, j'ai vu des hommes et des femmes capables de recevoir des critiques et d'en profiter, et du fait de ce fait de ne plus être considérés comme des personnages intouchables et compagnie. Non, il faut qu'ils assument leur fonction. Mais cette fonction doit permettre, et c'est à eux de le faire, d'entendre, de comprendre la rumeur, les difficultés.
Jean-Louis Debré dans Hors Piste sur France Inter. Jean-Louis Debré, c'est l'heure de votre choix musical. Et vous avez choisi du Hallyday, Marie de Johnny Hallyday. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'ai toujours été un fan de Johnny.
C'est votre côté Raffarin ?
Si vous voulez.
C'est son côté Debré, peut-être.
Non, je trouve que ça a été un des plus grands chanteurs des temps modernes. Il arrivait à rassembler des générations différentes. Je suis allé à peu près à tous ses concerts, j'emmenais mes enfants. Et j'avais beaucoup d'estime et d'admiration pour ce chanteur.
On écoute donc Marie, Johnny Hallyday. C'est le choix de Jean-Louis Debré dans Hors Piste.
Thank you. savait tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouis mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveille. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh, 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 oh. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe. Oh, 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 oh. Si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver.
Marie, Johnny Hallyday, le choix de Jean-Louis Debré, qui est dans Hors-Piste sur France Inter ce soir. Marie, c'est qui pour vous, Jean-Louis Debré?
Marie, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est la jeunesse, c'est la France.
Ouais.
C'est la France.
Donc, fille aînée de l'Église, là, pour le coup.
Oui, c'est la France.
C'est pas très 2022 de dire ça.
Oui, sauf que le symbole de la République, c'est Marie-Anne. Qui est devenue Marianne. Non, je trouve que c'est autour de Johnny, autour de cette chanson, qu'on peut se rassembler dans une espérance commune.
Mmh. J'ai vu plus d'horreur que de merveille. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier, chante Hallyday. Écoutez Marie, quand on est l'ancien ministre de l'Intérieur qui a fait défoncer les portes d'une église pour en évacuer des sans-papiers, avec le recul, est-ce que pour rester dans la thématique, vous avez parfois envie de demander pardon, Jean-Louis?
Non, parce que là, je considère que j'ai fait mon devoir. D'abord, beaucoup de mal à supporter que des lieux de culte soient envahis. Mmh. Deuxièmement, ce qu'on appelle les sans-papiers, c'était des femmes et des hommes qui étaient en situation irrégulière en France. Je suis pas contre l'immigration, mais je pense que les immigrés doivent respecter les lois et les codes de la France.
Vous feriez pas différemment aujourd'hui?
Non,
je ni sur la forme, ni
vous
sur
savez,
le fond.
Je suis meurtri chaque fois que je passe devant un lieu de culte, que ça soit une église, que ça soit un temple protestant, une synagogue, de les voir protégés. Pour moi, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce monde. Et envahir une église, bafouer tout ce que les gens qui croient retrouvent dans cette église, c'était un mépris de notre civilisation.
Mais défoncer la porte, le geste, l'image,
oui,
pour entrer dans une église.
Naturellement. Alors vous m'expliquerez, parce que vous savez, je fais une petite confidence. Nous avons, avant que on intervienne dans l'église, à l'époque, le curé de Saint-Bernard et même l'évêque de Paris, cardinal de Paris, voulait qu'on intervienne. Et je me souviens, cardinal appelait, etc. Et puis on intervient et 3 heures après être intervenu, le curé de Saint-Roch nous dit qu'il fallait faire un communiqué ou parle à la radio disant qu'il fallait rentrer différemment. Et le cardinal archevêque de Paris fait un communiqué disant qu'il regrette la brutalité. Alors je l'avais appelé à l'époque, j'ai dit écoutez, éminence, vous savez qu'il y a la différence entre vous et moi. Il dit non, vous croyez au miracle et pas moi. Pour rentrer dans un endroit où tout est barricadé, comment voulez-vous faire ?
C'est là qu'on se dit qu'on vous connaît pas bien, qu'on n'a pas toutes les clés, capable d'être un ministre de l'Intérieur hyper ferme, qui campe sur ses positions, qui a des convictions, et aussi d'écrire il y a quelques années un livre avec un type qui a passé plus de 20 ans dans la rue, c'est un livre qui s'appelait Je tape la manche.
Tape la manche. Ouais,
comment elle est née cette histoire ?
Écoutez, c'est un jour, quand j'écris le soir, j'aime bien aller m'acheter un petit cigare au drugstore, je prends ma bicyclette et je vais acheter. Et un jour, j'arrive devant le drugstore et un SDF, un monsieur qui est là, qui fait la manche, me dit « Je garde votre bicyclette. Enfin, » Je donne les clés. Et puis, vous savez, dans la vie, on croise beaucoup de copies et peu d'originaux. Et je me suis dit « Là, c'est un original. » Et je commence à parler avec lui et à ce moment-là, passe, pas loin, un homme politique connu, que je connais, il dit à la femme qui l'accompagne « Regarde, Debray parle à un clodo. » Alors je me suis dit, ou je me retourne et je lui fous une baffe, ce qui ferait négliger, ou alors je vais essayer d'écrire le livre sur la vie de cet homme qui vit dans la rue et qui fait la manche, et je lui enverrai, avec cette dédicace, « Il a plus de choses à dire que toi ». Et donc j'ai commencé à parler avec Jean-Marie, et voilà, beaucoup de difficultés, il ne voulait pas s'exprimer, et puis je suis passé le voir pratiquement tous les jours, tous les soirs, on parlait ensemble, et puis un jour je lui ai dit écoutez, voilà un petit carnet, mettez-moi quelques idées, et puis on va écrire un livre ensemble. Et puis progressivement, j'allais le retrouver le soir dans la rue, et je prenais des notes, j'écoutais, et puis après je l'ai fait venir au Conseil constitutionnel, il était un peu surpris, et ce livre est né comme ça, et c'est une très belle histoire, puisque Jean-Marie maintenant a retrouvé un métier, il travaille, ça se passe bien, le livre a eu beaucoup de succès.
Vous l'avez envoyé donc aux fameux politiques avec la dédicace ?
Oui, absolument.
Il vous a répondu ?
Il m'a pas répondu.
C'était qui ?
J'ai pas la mémoire des noms.
Vous mentez, Jean-Louis Debray.
Oui.
Oui, absolument. Bon, on s'aperçoit depuis le début de cette émission que parler de vous sans parler de lui, ça n'a aucun sens.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, c'est que, notamment s'agissant de la dépense, je décide et il exécute. Je ne vois pas pourquoi on fait d'une polémique qui me paraît beaucoup plus inspirée par des raisons de politique avec un petit p que par des raisons de défense de l'intérêt général.
Chirac, c'est votre fidélité absolue. Là, je vous regardais pendant qu'on l'écoutait, vous rejouez les scènes, vous rejouez toutes ces phrases que vous connaissez par cœur. Pourquoi lui ? D'où c'est venu ? C'était pas le plus gaulliste de tous, c'était pas toujours le plus réglo de tous. Pourquoi lui ?
Est-ce que vous pouvez toujours expliquer vos rencontres ? C'est une rencontre. À l'époque, j'étais jeune magistrat, et j'aimais rencontrer des personnages qui sortent de l'ordinaire. Je me souviens, écrit à Mauriac, j'avais écrit à Monterland, j'avais rencontré plusieurs fois Malraux, parce que les personnages, je voulais, encore une fois, si vous voulez, cette idée que dans la vie, on traverse des tempêtes, et il y a
des beaucoup de copies et très peu d'originaux. Et un jour, je tombe sur Chirac, je le rencontre, je sais pas qui est-ce, le personnage est grand, il fume, etc. Et je lui dis, mais je sens que c'est un personnage qui sort de l'ordinaire. Et je dis, vous savez, je veux rien, je faisais pas de politique à l'époque, mais j'aimerais bien parler avec vous, échanger et m'enrichir de votre culture, de ce que vous êtes. Enrichissez-vous des autres.
Qu'est-ce qu'il vous répond ?
Et il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle. Oh, je dis, bon, très bien, je lui donne mon numéro de téléphone. Je dis, comme tous, on s'appelle et on n'appelle jamais. Et trois jours plus tard, il m'appelle et il me dit, est-ce que tu veux déjeuner avec moi ? Bah, oui. On se retrouve au drugstore. Et donc, on arrive au drugstore, il était ministre. Et on parle, d'ailleurs j'ai vu que c'était un grand personnage, parce qu'il avait pris une entrecôte énorme, et il s'est envoyé devant moi cette entrecôte avec quatre bières.
C'est pas une légende alors.
C'est pas une légende. Et puis, après le déjeuner, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je dis, écoute, moi je vais regagner mes affaires, mon tribunal. Il me dit, bien, on va marcher. Et on a, je me souviens encore, descendu les Champs-Élysées, tous les deux, en bavardant, en parlant, en échangeant, et puis j'ai raccompagné jusqu'à son ministère. C'était un peu, j'avais un peu un sentiment de rater l'école, vous savez. Oui. Et puis en partant, il me dit, ben, on se revoit. Et puis quelques temps après, il passe au ministère de l'Agriculture, et il me téléphone un matin, il me dit, est-ce que tu veux venir à mon cabinet ? C'est une expérience. Je dis oui, très bien. Et je suis rentré à son cabinet. Et ça a été un moment de découverte. Puis après, je suis passé au ministère de l'Intérieur.
On a l'impression que vous auriez tout fait pour lui, tout ce qu'il vous demandait. Vous avez été son porte-flingue pendant des années, pendant les campagnes, à l'époque du RPR.
Vous savez, je crois beaucoup à la fidélité dans ces époques de trahison. Je crois beaucoup à la fidélité. Et moi, je me trouvais bien. Il y avait une sorte de grande confiance. J'avais une confiance en lui. Et vous savez, j'ai toujours été très énervé ou très sur ce que j'appelais les pigeons voyageurs de la politique, ces gens qui, en fonction l'éventualité de leur carrière, vont passer là, changer, etc. Écoutez, moi, j'aimais parler avec lui, j'aimais m'entretenir avec lui, j'aimais sa capacité à écouter ce qui ne lui convenait pas.
Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais juste reviens sur la fidélité, parce que la politique, c'est aussi un monde de trahison. Lui aussi, il a beaucoup trahi Chirac dans sa vie politique.
Mais c'est son problème, c'est pas
le
mien.
C'est presque consubstantiel, constitutionnel de la politique.
Oui, mais moi, je parle de moi, et moi, j'avais cette fidélité à un homme, fidélité à un regard de l'homme au pouvoir sur le peuple.
Il vous parlait vraiment à vous ? Il vous dit, parce qu'on sait que c'était quelqu'un de très introverti, contrairement à l'image qu'il pouvait donner. Est-ce qu'il vous parlait vraiment ?
Alors, c'est très compliqué, parce que après 20 ans de vie, même plus que
commune.
Ça... Commune. je savais, même s'il ne parlait pas, ou quand il parlait, s'il mentait ou s'il mentait pas, s'il disait la vérité ou s'il escamotait.
Et vous le lui disiez ?
Et je lui disais.
Tu mens là. Non, là, tu m'embrouilles.
Non, je ne sais pas. Je l'ai jamais tutoyé. Il voulait absolument. C'est en politique, on se tutoie. Ouais. Et moi, je considérais que je n'avais pas à tutoyer. Et il me tutoyait. Il m'appelait par mon prénom. Et moi, je l'appelais monsieur. Mais je disais monsieur, non. Pas à moi. Ouais. Pas à moi.
Chirac, c'était une bête de campagne. C'était un animal politique. C'était un passionné, un amoureux de la vie publique. Est-ce qu'au fond de lui, il pense avoir été, et il pensait avoir été un bon président?
Vous savez, c'était pas un jouisseur du pouvoir comme Mitterrand a pu l'être. Et donc, je pense qu'il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il devait faire pour garder l'unité nationale, pour permettre un certain développement. Oui, je pense qu'il considère qu'il a été un président correct et honorable.
On écoutait Johnny Hallyday tout à l'heure, Jean-Pierre Raffarin disait « On a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac
ouais. ».
Et vous, qu'est-ce que vous avez en vous
de... écoutez, non, moi, j'ai beaucoup apprécié le regard qu'il portait sur le peuple de France. Il n'y avait aucun mépris. Et je me souviens le nombre d'interventions, de coups de téléphone disant « il faut que tu t'occupes de telle personne parce qu'elle est en difficulté ». Je me souviens lorsque on avait perdu les élections en 96, après, bon, et qu'il y a eu pas mal de députés gaullistes qui ont été battus, il n'avait de cesse que de m'appeler en disant, tu appelles monsieur Intel, tu appelles madame Intel, elle a été battue, il faut l'aider, il faut l'encourager. Et c'est vrai, il y avait ce regard sur les autres, ce regard humain, que je ne retrouve pas chez les politiques aujourd'hui.
Et c'était facile de se faire sa place dans, parce que vous êtes un vrai proche de la famille Chirac et de Jacques Chirac, de se faire sa place avec Bernadette Chirac d'un côté, avec l'autre Chirac de l'autre, c'était...
Mais moi, mon affection, mon amour, c'était Jacques Chirac. J'ai beaucoup d'affection pour Claude, notre relation a été une action personnelle. Et d'ailleurs, lorsqu'il a quitté le pouvoir, je me souviens, vous savez... Peu de temps avant de quitter le pouvoir, je lui disais, vous savez, il va arriver ce que j'ai connu enfant. Enfant, un jour, j'avais 13, 14 ans, j'arrive à la maison, il y a plein de bonbons, plein de fleurs, tous les journalistes sont dans la rue, il y a la police. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père est Premier ministre. Ah, bonheur. 3 ans plus tard, j'arrive à la maison, il n'y a plus de journalistes dans la rue, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de bonbons. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ton père n'est plus rien. Et dans les mois qui ont précédé ou la fin du mandat de Chirac, je lui racontais cette anecdote. Et j'ai vécu ça après avec lui. Le jour où il a quitté, il est parti en vacances et le mois d'octobre est revenu. Et chaque jour, le téléphone sonnait un peu moins. Et c'est là où vous croisez les vrais amis. Ceux avec qui vous vous êtes liés, mais qui... ont la reconnaissance. Et quand les années qui ont suivi après son départ de l'Élysée, j'allais le voir pratiquement tous les soirs. Et là, il parlait moins, mais j'avais tellement vécu de choses avec lui que j'avais pas besoin qu'il me parle. Et d'ailleurs, je savais qu'il n'avait pas besoin que je lui parle, mais que je sois à côté.
Vous l'imitiez devant lui?
Parce que je sais ah oui, vous... oui, oui, oui. Je me suis un jour, j'arrive dans son bureau à l'Élysée, je dis, bonsoir, je dis, bonsoir Jean-Louis, tu vas bien? Et il me fait, bonsoir Jean-Louis.
Donc vous faisiez Chirac et Chirac faisait Giscard. Et voilà.
Thomas Soto. France Inter. Hors piste.
Jean-Louis Debré est dans Hors Piste sur France Inter, mais pas seulement, il est aussi sur scène, sur les planches du théâtre de la Gaîté Montparnasse, on l'évoquait tout à l'heure. Vous y interprétez ces femmes qui ont réveillé la France du mercredi au samedi avec Valérie Boschneck. Valérie Boschneck, c'est votre amoureuse, c'est facile de partager la scène avec son amoureuse, Jean-Louis Debré ?
Oui, parce que nous avons écrit le texte ensemble, qui est parti d'un livre, et que finalement on a pu répéter souvent ensemble, et c'est un bonheur chaque soir renouvelé de... Mmh. C'est un nouveau métier pour moi.
Sauf qu'on vient de passer presque 40 minutes à vous écouter nous dire que vous avez tourné la page de la politique et vous dites, tiens, il en a marre de la lumière et bim, on vous retrouve sous les projecteurs. Pourquoi? C'est le besoin de lumière en fait
Non, c'est pas besoin de lumière, non, parce que je suis... Je joue au théâtre.
Ouais.
La pièce qui devait durer un mois, maintenant dure depuis le mois de septembre. Nous arrivons à la 100e. Dans ce contexte très difficile, nous avons encore un public important. On aura rencontré en l'espace de tous ces mois près de pas loin de 10 000 personnes. Et donc, au début, personne s'intéressait à cette pièce. Et puis... tout d'un coup, je vois arriver la presse qui me dit « Mais vous êtes encore là ?» Et oui, je suis encore là. Et il y a encore du public ? Oui, il y a encore du public. Et de plus en plus. Et donc, voilà. Et moi, j'apprends. C'est fantastique. Chaque jour sur la scène, chaque soir plutôt, j'apprends un nouveau métier.
Vous avez besoin d'être aimé ?
Moi ?
Ouais.
Non.
D'être applaudi ?
On ne meurt jamais d'une indigestion d'applaudissements. Non, c'est satisfaisant de jouer avec devant un public et qui manifeste à la fin, sa satisfaction de vous avoir entendu.
Ouais.
C'est satisfaisant. Je préfère ça plutôt que des huées ou des... Et c'est un bonheur. Hier soir, il y avait une dame qui est revenue avec ses enfants. C'est bonheur de pouvoir parler de l'histoire de France, de faire rire, de divertir et que les gens viennent vous applaudir.
Et en plus, ils peuvent venir vous parler derrière, parce que vous prenez le temps d'échanger avec eux. Homme politique et acteur, est-ce que ce sont des métiers très différents?
Oui, absolument.
En quoi?
Alors, la politique est un métier du spectacle. Mais c'est un spectacle très différent. Pourquoi? Parce que quand vous faites des discours devant les assemblées ou devant des militants, vous parlez à des militants, à des sympathisants, et vous êtes tenu, vous n'êtes pas tenu par un texte, vous pouvez improviser.
Et puis vous jouez aussi.
Vous jouez. Là, chaque soir, vous jouez devant un public que vous ne connaissez pas. Vous devez respecter un texte que vous avez appris, et ce public, il a payé pour venir vous voir. C'est pas le parti qui vous a rempli la salle, non, c'est un public qui a fait une démarche, qui est venu, qui a pris ses billets, qui s'est installé, et qui est là pour recevoir quelque chose, et non pas pour faire de la représentation. Quand vous avez un grand meeting politique, on fait venir plein de militants, ils sont là pour impressionner, ouais. Pour impressionner la presse, pour impressionner les images. D'ailleurs, on fait ces grands meetings qui servent à rien, uniquement pour l'image qu'on va véhiculer. Et ça, c'est très différent, le spectacle, le soir, au théâtre. Vous n'avez pas de caméra de télévision, vous n'avez personne. Vous avez un public qui est là, qui a fait une démarche, qui est venu.
C'est plus exigeant.
C'est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus rigoureux. Et il faut respecter le spectateur. Et le spectateur, il n'est pas là pour vous faire valoir. Il est là parce qu'il a fait cette démarche, parce qu'il veut s'amuser, s'intéresser, être intéressé. Et voilà. Et donc, lorsque la fin du spectacle, ils vous applaudissent, et quand je parle après avec eux, et qu'ils disent, oui, c'est bien, voilà, vous devriez faire ça, je prends tous les conseils.
Vous avez le trac?
Toujours.
C'est vrai.
La demi-heure qui a précédé est épouvantable.
Et vous l'aviez quand vous faisiez des meetings politiques?
Non.
Et en termes d'adrénaline, c'est comparable ou pas les deux?
Si vous voulez, quand vous faites des grands meetings politiques, vous êtes dans une ambiance d'excitation, d'énervement. Là, dans la demi-heure qui précède, vous êtes tout seul. Et je me mets derrière le rideau qui est tombé et j'entends la rumeur, les gens qui rentrent, et je veux être seul. Et donc, il n'y a pas d'excitation, au contraire. Calmons-nous. Et puis, il y a toujours... la peur du manque de mémoire, d'un trou, mais ça se passe bien.
Ce spectacle, il est consacré aux femmes marquantes, hein, Louise Michel, Simone Veil, Marguerite Yourcenar, Colette, des femmes oubliées aussi comme Madeleine Bresse, la première femme médecin. Et vous citez à un moment une proposition de loi dont le titre est « Défense d'apprendre à lire aux femmes ». Article 8, la nature elle-même en pourvoyant les femmes d'une prodigieuse aptitude à parler.
Semble avoir voulu leur épargner le soin d'apprendre à lire et à écrire.
Voilà, du temps d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, on est au XVIIe, XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est un passage obligé. Tout homme doit définir son féminisme. Alors, quel genre de féministe êtes-vous,
Jean? Moi, je suis pour l'égalité homme-femme.
Oui, ça, tout le monde.
Oui, mais...
Enfin, tout le monde le dit, en tout cas.
Tout le monde le dit. Je pense que quand on regarde notre histoire, il a fallu beaucoup de combats pour arriver à cette égalité des droits civiques, mais égalité également du regard. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une femme est une femme qu'elle a moins de talent, moins d'intelligence que l'homme. Et donc, moi, je ne fais pas de distinction. Je souhaite que, à talent égal, à ambition égale, eh bien, il n'y a pas de distinction.
Veut plus aujourd'hui.
Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit l'histoire de ce combat de ces femmes pour arriver à l'égalité des civiques et à l'égalité des droits. Ces femmes avaient compris une chose, et qu'il faudrait qu'on fasse rentrer dans l'esprit des jeunes la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas d'égalité sans liberté. Et il n'y a pas de fraternité sans égalité et sans liberté.
Quelle est la femme qui a le plus marqué votre vie, s'il y en a une?
Marianne.
Marianne.
Marianne, le symbole de la République.
Plus que la mère de vos enfants, plus que...
Non, mais ça, c'était autre chose.
Votre mère, plus que... Spontanément, vous répondez alors, Marianne.
Alors, Marianne, parce que ma femme qui est décédée, mais j'avais, je l'ai pas connue. Elle a beaucoup marqué ma famille. C'est ma grand-mère qui a été la première femme interne des hôpitaux de France et la première femme chef de clinique. Et d'ailleurs, quand dans le spectacle on rend hommage à cette première femme médecin, elle s'appelait Madeleine Bresse, j'ai toujours présent à l'esprit que si ma grand-mère a pu devenir l'une des premières internes des hôpitaux, la première chef de service à l'hôpital, c'est parce qu'il y a une femme qui s'est battue. Parce qu'il y a une femme qui s'est battue. Si j'ai une grande passion pour Georges Sand, pour Colette, ces femmes qui ont montré aux femmes le chemin de la dignité et de l'espérance.
Comment elle s'appelait votre grand-mère ?
Elle s'appelait Jeanne de Brabançon.
Vous aimez les mots, vous avez écrit 9 romans avant de découvrir l'objet que vous avez apporté pour cette émission. Je vais vous citer des noms et à chaque fois vous allez me dire le mot, un seul, qui vous vient à l'esprit et au cœur. Ok ?
Oui.
Édouard Balladur. Un mot.
Un mot. Adversaire.
Anne Hidalgo.
Pathétique.
Molière.
Amoureux.
Nicolas Sarkozy.
Indifférent.
Angela Merkel.
Indifférent.
Valérie Pécresse.
Sympathique.
Éric Zemmour.
C'est pas mon monde.
Un mot.
Ailleurs.
Sophie Marceau.
Connais pas.
Jean Castex.
Plutôt sympathique.
Marion Maréchal.
Connais pas.
Michelle Obama.
Symbole.
De quoi ?
Symbole de cette égalité, de cette lutte contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme.
Jean-Louis Debré, c'est l'heure de nous révéler, de nous présenter donc l'objet que vous avez choisi d'apporter dans Hors Piste. Je vois que vous mettez la main à la poche.
C'est un petit objet qui ne me quitte jamais et sur lequel j'ai ma...
Ah, il faut trouver la bonne poche.
Ah voilà.
Le voilà, alors. Ah, la revoilà.
C'est Marianne. C'est une petite Marianne, mais qui est en même temps...
Ah, vous l'ouvrez ? Une clé USB.
Et c'est dans cette clé USB... Parce que quand j'étais juge d'instruction, il y a un vieux juge qui m'avait dit « C'est important, quand tu es juge, de regarder les gens. On vit dans un monde où on ne te regarde plus. » Et donc j'avais un petit carnet à côté de moi, ou quand je rencontrais quelqu'un, ou quand j'interrogeais quelqu'un, quand je voyais le pied bouger, quand je voyais ses tics, je notais. Et quand je suis chez moi, après, je mets sur mon ordinateur. Et sur cette clé, il y a toute ma vie de rencontre. J'ai rencontré aujourd'hui Monsieur X. Ah tiens, c'est très curieux. Il était d'une nervosité, d'une excitation. Il n'arrêtait pas de s'arrêter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah tiens, j'ai croisé dans la rue un personnage assez fascinant. Il y a quelques jours, dans la rue, j'ai vu une espèce de femme SDF. J'ai essayé de lui parler, mais elle était... Elle avait tellement imbibé qu'elle n'a pas été capable de me sortir un mot. Voilà, c'est
vous notez.
Là, je note et je mets sur ma clé USB et c'est Marianne qui m'a permis de rencontrer les autres.
Merci beaucoup Jean-Louis Debré d'être venu faire un peu de hors-piste avec nous ce soir sur France Inter. C'est la fin de ce nouveau numéro. Merci également à Marie Merrier, à Étienne B à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser et Stéphanie Valois à la mémoire vive et à Ronan Mahé aux manettes. Prochain hors-piste dans une semaine, toujours à 17h, toujours le dimanche. Dans hors-piste, le dernier mot revient toujours à l'invité. Donc c'est à vous Jean-Louis Debré.
Espoir.
Merci.